À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, ce sera question de Saint Cyprien. Ne vous pas, c'est passionnant que ce Saint Cyprien, oui. Il a vécu il y a bien longtemps. Il est mort en 258 à Carthage, c'est-à-dire dans la Tunisie d'aujourd'hui, alors que l'Afrique du Nord était chrétienne avant l'arrivée de l'islam au 7e siècle, qui a chambardé tout ça, n'est-ce pas, comme vous savez. Et ce païen romain, qui adorait les dieux romains, là, c'était un avocat qui s'est converti à 40 ans, et ça rappelle un peu saint Augustin, vous verrez, par les récits de sa conversion que je vous lirai, c'est très bref. Il s'est converti, puis en 3 ans, il était déjà évêque, donc en Afrique du Nord, à Carthage. Mais quelques années plus tard, il y a eu une persécution terrible. Il s'est fait trancher la tête, avec un courage extraordinaire, un grand saint, Saint Cyprien. Il a toujours été revêtu d'un grand prestige. Il a laissé des ouvrages remarquables, dont en particulier un ouvrage que je vous recommande, de l'unité de l'Église catholique, dans la collection Unam Sanctam. J'ai acheté ça il y a bien longtemps, en 1942, quand c'est paru. Mais c'est toujours en vente, c'est toujours dans les magasins, on peut toujours le faire venir, car c'est un ouvrage classique de l'unité de l'Église catholique par Saint Cyprien. C'est vous dire l'importance de cet homme. Il est né donc à Carthage, d'une famille de la haute bourgeoisie païenne. C'est un jeune homme instruit, qui a étudié finalement le droit et il a pratiqué le métier ou la profession d'avocat. Il était aussi rhéteur, c'est-à-dire qu'il connaissait l'art de s'adresser au public, de transmettre un enseignement, et il enseignait justement l'éloquence, qui était très populaire. Jusqu'à tout récemment, on enseignait encore l'éloquence il n'y a pas longtemps. C'est passé de mode aujourd'hui avec les micros. Tout a bien changé. On peut parler autrement, avec un micro devant une foule. Et il était déjà très connu quand il s'est converti à 40 ans. Sa conversion est venue par l'entremise d'un prêtre, comme ça arrive très souvent. C'est la tâche principale des prêtres, n'est-ce pas? Un prêtre âgé, Cécilien, qu'il s'appelait, qui lui a donné une Bible. Et Cyprien, en lisant ce livre, qu'il ne connaissait pas du tout, ça l'a mené très rapidement à adhérer au christianisme, en l'occurrence au catholicisme. Nous savons les détails de sa vie d'évêque par sa correspondance, et aussi par la vie de Cyprien ou la Vita Cipriani de Pontius, par ce qu'on appelle aussi les actes, et aussi les actes de son martyr. Ça a été écrit parce qu'il était l'évêque, imaginez, on a raconté ça. Il se passe que peu de temps entre sa conversion, comme je vous ai dit, son baptême et sa consécration épiscopale, imaginez, on situe sa conversion en 245, donc vers l'âge approximativement de 35-40 ans. Son ordination sacerdotale en 247, 2 ans plus tard, devient prêtre. Puis sa consécration, ou comme on dit aujourd'hui, son ordination d'évêque, quand j'étais plus jeune, on disait sa consécration d'évêque, en 248, l'année suivante. Par le jugement de Dieu, comme on a écrit, est le suffrage du peuple. C'est la foule qui s'est enthousiasmée pour lui et qu'on a considéré ça comme le jugement de Dieu. Puis il a été consacré évêque. Cyprien gouverne l'église de Carthage, donc. Et il écrit, puis en évoquant son passé, il trouve les accents qui seront en l'an 400, ceux de Saint-Augustin dans les Confessions. Je vous ai déjà lu ça en vous parlant de Saint-Augustin. Voici ce qu'écrit Saint-Cyprien sur sa conversion. C'est très, très, très beau. Ça ressemble à beaucoup de convertis aujourd'hui qui pourraient écrire les mêmes choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de convertis actuellement. Dans notre société, ici à Montréal et un peu partout. En France, il y en a beaucoup. Le cardinal Lustiger en a parlé longuement à un moment donné, il y a quelques années. Car le vide, le désespoir dans lequel sont plongés les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes femmes, arrivent à un moment donné, ces gens-là, à se convertir au Christ, parce qu'ils ont rencontré des témoins vivants du Christ. C'est ce qui lui est arrivé. Cyprien écrit, « J'errai à l'aveugle, j'errai comme un aveugle, si vous voulez, dans les ténèbres de la nuit, ballotté au hasard sur la mer agitée du monde. Je flottais à la dérive, ignorant de ma vie, étranger à la vérité et à la lumière. Étant donné mes mœurs d'alors, je jugeais bien malaisé ce que me promettait pour mon salut la bonté divine. Comment un homme pouvait-il renaître à une vie nouvelle? Voilà ce que je me demandais souvent, car j'étais pris, moi aussi, dans les 1000 erreurs de ma vie passée. Je ne croyais pas pouvoir m'en débarrasser, tant j'étais l'esclave des vices attachés à moi, tant j'avais de complaisance pour mes maux, M-A-U-X, devenus mes compagnons familiers. Il vivait avec son malheur, quoi. Il ajoute, Cyprien, mais l'eau régénératrice lave en moi les taches de ma vie antérieure, dans mon cœur purifié de ses souillures, une lumière venue d'en haut s'est répandue. L'esprit venu du ciel m'a changé en un homme nouveau par une seconde naissance. Aussitôt, d'une façon merveilleuse, j'ai vu la certitude succéder au doute. J'ai vu s'ouvrir les portes fermées et briller les ténèbres. J'ai trouvé facile ce qui auparavant semblait difficile et possible ce que j'avais cru impossible. Tu sais assurément, ajoute-t-il, et tu reconnais avec moi ce que m'a enlevé et ce que m'a apporté cette mort des crimes, cette résurrection des vertus. Tu le sais toi-même, et je ne me vante pas. Celui soi-même est une odieuse jactance, c'est-à-dire une abominable vanité. Se louer soi-même, car on doit tout remettre dans le cœur de Dieu. C'est Dieu, l'Esprit Saint, qui agit dans les saints, qui agit en chacun de nous. Et pourtant, ajoute Cyprien, et pourtant ce pourrait être non pas jactance ou vanité, mais reconnaissance. Se rappeler ce qu'on attribue non à la vertu de l'homme, mais au bienfait de Dieu, au cadeau de Dieu, si vous voulez. Ne plus pécher, oh, écoutez bien ça, c'est important, ne plus pécher est le premier effet de la foi. Et les péchés passés étaient l'effet de l'erreur humaine. De Dieu, dis-je, de Dieu vient toute notre vertu, de Dieu vient notre vie. Notre force, c'est une lettre adressée à Ad Donatum, si vous le cherchez, dans les chapitres 3 et 4. Alors, Saint Cyprien témoigne dès sa conversion. Il parle de pauvreté, de chasteté. Et tout ça, c'est connu. Mais il ne s'arrête pas là. Hein. Il s'éloigne de la littérature païenne, qui est souvent très dans le genre de SAD, si vous voulez, dans le genre de la porno, dans le genre de la facilité, de l'adultère, de tout ce qui nous entoure, à la télévision, dans le cinéma, dans la littérature, presque à chaque fois qu'on ouvre ces choses-là, il y a des scènes de couchettes, des adultères, des manques au simple bon sens. Eh bien, il s'éloigne de la littérature païenne. Il ne cite que l'Écriture, que la Bible, qu'il a reçue de Sicilien. Il oublie donc les auteurs profanes dont il s'est nourri jusqu'alors. Et avec la Bible, avec l'Écriture, il a son maître, Tertullien, qu'il n'a jamais connu, mais qu'il lit. Il reconnaît en lui le théologien et en sachant trier, là, dans, il faut tout de même user son jugement, il ne renoncera jamais à se nourrir de tout ce qui est fidèle à la doctrine chez ce maître Tertullien dont le génie le séduit. Et dont le passage malheureusement à l'hérésie, Tertullien est devenu hérétique. Ça lui a fait une douleur presque incompréhensible. Il faut dire aussi, il est à noter que Tertullien et lui ont le goût des révélations privées. Ils étaient un peu sous l'influence, disons un peu du montanisme. Ce serait trop long à vous expliquer. Je vous en parlerai un autre jour. Bon, disons que c'est une erreur, une hérésie, qui enseigne le contraire de ce qu'enseigne l'Église catholique. Ça a commencé au IIe siècle, ça, le montanisme. Ça vient de Montanus, qui voulait remplacer les évêques par des prophètes prétendument inspirés. Vous savez, des faux charismatiques, quoi. Saint Cyprien est avant tout un chrétien et par vocation un évêque. Un évêque. Il a non seulement la formation littéraire, le talent oratoire, mais aussi la vertu, la force qui fait les saints. Et tous autour de lui le sentaient. Surtout, il a la prudence d'un chef. Il sait à la fois réformer les mœurs des gens, et c'est les siens propres, et montrer sa modération. Mais il y a une persécution, dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure, décidée par l'empereur Dèce en 250, qui survient alors qu'il a seulement ébauché son gouvernement. Et le drame va surgir. Alors, je vous ai dit que la persécution décidée là, par l'empereur Dèce en 250 survient. Et puis, Saint Cyprien, lui, évêque de Carthage, n'a que seulement ébauché son gouvernement. Mais il s'inspire sans doute de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, que l'on lit partout dans l'Église d'un bout à l'autre de la terre aujourd'hui en célébrant Saint Cyprien. Saint Paul dit à Timothée, « Fils bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta façon de parler et de vivre, par ton amour et ta foi pour la pureté de ta vie. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager puis à les instruire. » Et ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, ce don que tu as reçu grâce à l'intervention des prophètes quand l'Assemblée des Anciens a imposé les mains sur toi. Tu dois prendre à cœur tout cela et t'y donner, afin que tous voient tes progrès. Sois attentif à ta conduite et à ton enseignement, mets-y de la persévérance. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent, hein? Alors, Saint Cyprien, devant la persécution, il croit quand même que la meilleure chose dans son cas, dans les circonstances, quoi, c'est de se cacher. L'Église de Rome, là, ne lui reprochera plus tard, le lui reprochera plus tard. Mais il va s'en expliquer dans les lettres 8, 9 et 20, car on a beaucoup de lettres de lui. Si pour Saint Cyprien, le moyen de veiller sur son diocèse, un peu de loin, quoi, au bout de 14 mois, il sort de sa retraite. Et ses lettres témoignent du fait que durant ce temps, il n'a jamais, jamais cessé de veiller sur son église de Carthage, sur son clergé, et puis sur ses fidèles, évidemment. La persécution terminée, il est confronté à un problème. Le problème de ceux qui, face à cette persécution, sont retombés par faiblesse dans le paganisme. C'est pas tout le monde qui est prêt à se faire trancher la tête, hein? Car qui blâmerait ceux qui sont tombés? Qui sommes-nous pour juger? Alors, ceux qu'on appelle les lapsis, les tombés, ceux qui sont retombés en s'imaginant qui n'ont fait que céder à la violence et qui pensent rentrer dans l'Église sans faire pénitence, sans problème, se voient tout à coup face à Saint-Cyprien, parce que la position de Cyprien est délicate. Hein? Sa propre disparition a été jugée sévèrement, mais il n'a fait que s'enfuir, c'est tout. Il ne pouvait quand même pas approuver ceux qui avaient renié leur foi, croit-il. Il ne pouvait pas accepter un retour sans pénitence. Et il est allé très loin, jusqu'à excommunier ceux qui se groupaient autour d'un chef, Felicissimus. Comme il présidait l'activité de plus de 150 évêques africains, Saint-Cyprien convoque un concile qui approuve ses décisions. Des décisions difficiles. Ces décisions imposent, au cas par cas, une pénitence plus ou moins prolongée selon la gravité des fautes, puis ils blâment la facilité de ceux qui distribuent les billets de réconciliation comme s'il n'y avait pas de péché, en disant que ce ne sont pas les martyrs qui font l'Évangile, mais l'Évangile qui fait les martyrs. C'est ceux qui adhèrent à l'Évangile qui vont jusqu'au bout, quoi. Il veut dire par là, quoi, que ce n'est pas d'être persécuté qui suffisait à faire des chrétiens. Être persécuté, ça fait pas un chrétien, ça. Mais c'est la fidélité évangélique des chrétiens durant la persécution qui donne sa réalité aux martyrs des persécutés, hein, c'est sûr. Dans une époque comme la nôtre, où le christianisme est persécuté de façon sous-jacente, parfois de façon claire et évidente, comme au Timor oriental, au Soudan et dans bien des pays, malheureusement, où est présent l'islam, c'est tragique. Mais chez nous, nous sommes persécutés. Qui a le courage de dire ce qu'il faut dire? Heureusement, il y en a de plus en plus. Et ceux qui s'opposent à Cyprien, qui parviennent d'ailleurs à retarder son retour à Carthage, tentent de le discréditer auprès du pape à Rome, où le pape, justement, Fabien, vient d'être martyrisé en 250. L'élection du pape suivant a été retardée du fait de la même persécution pendant 15 mois, plus d'un an. Et parmi ceux qui, pendant ce temps, exercent une espèce d'autorité, là, puis intriguent pour succéder sur le siège de Saint-Pierre, au cœur de l'Église, eh bien, l'un des plus connus est Novatien. Il répond aux lettres dénonciatrices de Carthage, puis il leur donne raison. Alors, Saint-Cyprien est bien mal pris. L'épreuve est très lourde pour Saint-Cyprien. Sa défense est appuyée par le gouvernement qu'il a exercé durant son exil. Il écrit d'ailleurs pour se justifier. « Ce que j'ai fait, mes lettres vous le disent. Ces lettres, je les ai envoyées en diverses occasions et que je vous ai communiquées. Conseil au clergé, exhortation aux confesseurs, représentation aux exilés, quand il le fallait, appel à tous les frères pour les presser d'implorer la divine miséricorde. » Rien n'a manqué à ce que mon humble personne a pu tenter selon les règles de la foi et de la crainte de Dieu. Alors le clergé romain, qui reçoit de bonnes informations finalement, bien il est convaincu. Puis à Carthage, bien l'autorité de Saint-Cyprien, cependant, est encore un peu bafouée durant quelque temps. Il se fait alors représenter, administrant son église par des auxiliaires sûrs pour maintenir ses fidèles unis dans l'Église catholique. Et au printemps de 251, un an après le début de la persécution, enfin, il peut rentrer, étant lui-même accusé par la malice et la jalousie. Il n'en parvient pas moins à rétablir son autorité. Il décide que ceux qui ont sacrifié aux idoles doivent faire pénitence, ceux qui, sans avoir sacrifié, se sont procurés, disons, un faux certificat attestant qu'ils l'avaient fait, et était admis à la pénitence, qui obtenaient la réconciliation, hein? Et ceux des catholiques là, qui étaient tombés en pensée, sans aucune faute extérieure de reniement, mais qui avaient eu tremblé jusqu'au tréfonds de leur être, devaient seulement s'en accuser en confession. Alors, au Concile d'Afrique, il y a eu un Concile d'Afrique en 252, donc 2 ans après le début des persécutions, les évêques, unis à Saint-Cyprien, accorderont finalement leur pardon aux apostats, qui, depuis leur chute, ont fait pénitence. Il fallait comme ça qu'on fasse faire pénitence à tous ceux qui ont apostasié la foi catholique en Occident, ce serait terrible, on en aurait des millions. Nous vivons une époque dramatique dont je vous parlerai demain, en vous parlant de cette Église qui semble s'effondrer. Entre-temps, à Rome, le pape Corneille, élu en mars 251 et qui célébrait en même temps que Saint-Cyprien, prescrit des mesures identiques. Pendant que Novatien, qui était pape quelques instants, trop rigoureux, refuse tout pardon. Et à Carthage, il y a un dénommé Nova, qui n'est pas Novatien, là. À l'inverse, c'est trop accommodant, lui, il réconcilie sans formalité tous les apostats. Il n'y a pas de problème avec lui, il comprend d'une façon peut-être trop large. Ces événements peuvent nous sembler lointains, mais c'est pas si lointain que ça. Ça ressemble à des choses qui peuvent se passer aujourd'hui, hein. C'est une leçon de prudence pastorale. Novatien se montrait rigoriste, Nova laxiste, Corneille et Saint-Cyprien témoignent de la modération pastorale et de la véritable prudence chrétienne. Alors, de 252 à 254, la peste se répand à Carthage, sur l'Afrique chrétienne, et Saint-Cyprien organise les secours. Il va au-devant des pestiférés, il fait montre d'un véritable héroïsme. Il répand un traité qu'il a composé sur la mort, puis il interroge « Le bien portant s'occupe-t-il du malade? Aime-t-on sa parenté? Le maître a-t-il souci de son esclave? » Et il affirme alors « Nos frères, nous le savons, ne sont pas perdus, ils sont partis avant nous. » Alors il encourage les gens à aider les plus pauvres. C'est toujours ce qui a existé dans le christianisme depuis le début, comme vous le savez. Et pour lutter contre la peste, l'empereur Gallus prescrit des sacrifices et des prières aux dieux de Rome. Et la persécution reprend à Rome, mais aussi à Carthage. Et là, Cyprien appelle les chrétiens d'Afrique à accepter de verser leur sang, car ils ne peuvent pas sacrifier aux dieux païens, hein? Et le pape Corneille, exilé de Rome par l'empereur, meurt en 253. Lucius lui succède pour peu de temps. Puis Étienne, qui va devenir Saint-Étienne, est élu pape le 12 mai 254. C'est la deuxième grande lutte qui commence pour Cyprien. C'est tragique. Et Novatien, premier antipape, qui n'était pas un vrai pape, élu en 251... Il est schismatique, lui, Novatien, et ceux qui ont été baptisés dans son église et qui se convertissent ensuite à la vraie foi, doivent-ils être rebaptisés? Ben alors ici, Cyprien suit son maître, Tertullien, qui a quitté l'église, qui est schismatique et qui se convertit, doit recevoir un nouveau baptême, dit-il. Le pape Étienne, lui, tient pour la validité du baptême des hérétiques. Et ça peut nous intéresser parce que nous tenons aujourd'hui, à partir de ce temps-là, la validité des baptêmes que les chrétiens reçoivent en dehors de l'Église catholique. Quand ils viennent à l'Église catholique, ils ne doivent pas être rebaptisés. Mais ça date de cette époque, du milieu du 3e siècle. C'est étonnant, hein? Après tant de siècles, l'Église maintient les décisions de cette époque. Saint-Cyprien n'arrive pas toujours à suivre les directives de Rome au sujet du baptême. Il croit qu'il ne peut y avoir d'autre baptême que le baptême unique, c'est-à-dire celui administré par les catholiques. Il estime que les hérétiques, comme il dit, n'ont aucun pouvoir ni aucun droit. Alors il nuit autour de lui, en 256, 71 évêques de l'Afrique préconciliaire. 71 évêques? Mais oui, il y en avait 400 quelque chose quand les musulmans sont arrivés puis qui ont tout exterminé ça au 7e siècle. Quelle tristesse, hein? Il n'y a plus, pour ainsi dire, de chrétiens en Afrique du Nord. C'était éliminé. Tragique. Grande souffrance pour nous, chrétiens. Et il est réuni, donc, ce sont des évêques de l'Afrique proconsulaire et de la Numidie. Puis il communique leur décision à l'évêque de Rome. à savoir que seul le baptême catholique est baptême. Il ira plus loin, il fera appel à un évêque oriental, Firmilien de Césarée de Cappadoce, qui conserve un usage comme le sien, et qui est un disciple d'Origène, il souffre de la sévérité romaine à l'égard de Saint-Cyprien. Son soutien, acquis à Saint-Cyprien, est formulé avec violence, lui. Il ménage pas ses mots. Après avoir comparé le pape Étienne à Judas, imaginez, la chicane est prise. Pourtant, c'est à l'intérieur de l'Église. C'est pour vous dire que les chicanes, il y en a toujours eu. Mais elles se réparent, et même chez des saints. Alors, ne nous scandalisons pas. Sachons que des gens tiennent à leurs idées jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'obéissance. Alors, cet évêque, le Firmilien, l'évêque oriental, compare le pape Étienne, qui est un saint, à Judas. Il interpelle, il dit, « Vous avez pensé pouvoir excommunier tout le monde, et c'est vous seul qui vous êtes excommunié. » Oh là là! Voilà la tendance très, très, très protestante où l'on croit que le pape s'excommunie et on quitte l'Église. C'est dramatique. On s'est interrogé pour savoir si vraiment le pape Étienne avait excommunié Saint-Cyprien. C'est sûr que la menace pesait, mais il l'a pas excommunié. Et la mort de Saint-Étienne en août 257 suspend les hostilités entre ces deux saints. Saint-Sixte, pape qui lui succède, utilise la patience, lui. Alors, les paroissiens de la paroisse Saint-Sixte ont un pape qui a exercé la patience. Et ainsi, le pouvoir de Rome va parvenir à établir la doctrine du baptême, enrichie beaucoup plus tard de la solution du baptême sous condition, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Parfois, on peut baptiser des gens qui viennent d'autres religions chrétiennes, mais on les baptise sous condition en se disant il est vraisemblable que son baptême est valable. Nous en sommes pas absolument sûrs, alors nous rebaptisons. Peu après la mort du pape Saint-Étienne, le 30 août 257, Saint-Cyprien est convoqué. Convoqué par le proconsul. Païen, évidemment. Ce proconsul, par ordre de l'empereur, il lui ordonne de sacrifier aux dieux de Rome, et Saint-Cyprien refuse évidemment. Évêque catholique. Après un exil de diverses péripéties, il est cité à nouveau devant le proconsul qui ordonne que l'évêque soit mis à mort. Et Saint-Cyprien rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu de pouvoir donner sa vie. Alors il est conduit dans un lieu dit champ de Sextus. Et le texte ancien raconte, je vous le lis, c'est pas long, une dizaine de lignes. Là, il ôta son manteau, fléchit le genou et se prosterna pour prier Dieu. Puis il ôta sa dalmatique, la remit au diacre, et, vêtu d'une chemise de lin, il attendit le bourreau. Quand le bourreau vint, il ordonna au sien de lui compter 25 pièces d'or. Les frères jetaient devant lui des linges et des serviettes. Le bienheureux Cyprien se banda lui-même les yeux. Comme il ne pouvait se lier les mains, le prêtre Julien et le sous-diacre Julien, le même nom, les lui lièrent. Ainsi souffrit le bienheureux Saint-Cyprien. Pour soustraire son corps à la curiosité des gentils, des païens, quoi, on le déposa non loin de là. Puis à la nuit, on le transporta parmi les torches et les champs, dans le domaine du procurateur Macrobius Candidus, sur la voie de Mappale, près des piscines, au milieu d'un enthousiasme triomphal. On ne peut guère s'empêcher de penser que la Providence a rappelé auparavant le pape Saint-Étienne pour que, malgré les circonstances confuses, le martyr de Cyprien, Saint-Cyprien, soit pas embué de quelques blessures, que ce soit chicane, c'est pas avec le siège de Saint-Pierre. De fait, le nouveau pape, on l'a dit, va temporiser Saint-Sixte. Il fallut même 50 ans pour que toute l'Afrique se rendent à l'usage de Rome. Ça a pris du temps avant de comprendre que Rome reconnaissait le baptême administré dans d'autres églises. Quant à Cyprien, il est mort comme un saint martyr en offrant son sacrifice, sûr de son bon droit et dans la paix de Dieu. Et le problème posé n'en était pas moins capital. C'est important, cette discussion sur le baptême. Il était d'ailleurs moins celui, peut-être, du baptême, facilement réglé, que celui des rapports entre les églises locales puis le pontife romain. Comment faire l'unité, hein? Alors, il y a dans les événements qui marquent les dernières années de Cyprien des aspects complexes, paradoxaux, quoi. Finalement, difficile à expliquer, car cette âme forte de cet évêque extraordinaire, magnifique même, a été, de l'avis de tout le monde, un grand évêque. Après sa conversion, il a vécu saintement. Il s'est montré dans l'ensemble un pasteur, puis aussi un enseignant extraordinaire, un docteur. Il n'en est pas moins, en dehors de son œuvre d'administration des sacrements, puis de sa doctrine morale, l'un des fondateurs de ce que nous nommons aujourd'hui l'ecclésiologie. Qu'est-ce que l'Église? Et son œuvre capitale, c'est certainement le De Unitate Ecclesiae. Sa pensée est nette. Celui-là n'a pas Dieu pour père, dit-il, qui n'a pas l'Église pour mère. Je répète. Celui-là n'a pas Dieu pour père, qui n'a pas l'Église pour mère. Et ça date du milieu du IIIe siècle. Mais quelle est l'Église dans sa pensée? Est-elle l'Église universelle? Oui, sans doute. Et le chapitre 4 de son traité, que j'ai ici en main, là, de l'unité de l'Église catholique, que j'ai acheté au début des années 40, c'est quelque chose de formidable. C'est un des livres les plus précieux, à mon avis, de ma bibliothèque. Parce que si tant de schismes ont déchiré tout ce tissu ecclésial depuis les origines, c'est avant tout parce que l'on a oublié que par l'institution divine de Jésus, l'Église repose sur Pierre. Et comme Pierre, Saint Pierre est un, l'Église est une. Plus encore, l'évêque de Rome, son successeur, est primatus, le premier. Il ne s'agit pas seulement de la primauté d'honneur, ça n'a rien à voir avec l'honneur. Elle est la source de l'unité de cette Église qu'on appelle l'épouse du Christ. Tel est résumé l'exposé de Saint Cyprien. Mais l'Église, affirme-t-il encore, il le dit bien, c'est aussi tous les évêques et chacun d'eux. Les évêques, l'épiscopat est un. Le contrôle de l'autonomie appartient à la collectivité des évêques, laquelle, dans les limites de sa juridiction, légifère, fait des lois, avec un plein pouvoir. C'est cette fois la thèse du chapitre 5 de son livre de l'unité de l'Église catholique, paru aux éditions du Cerf. Le livre, il est vrai, ne se présente pas comme un traité de théologie. C'est l'exhortation d'un évêque à ses fidèles. Mais on peut, sans présomption, admettre que la pensée de Saint Cyprien, et c'est très important de nos jours, n'a pas la maturité dont, au siècle précédent, fait preuve peut-être Saint Irénée, qui affirmait que l'Église de Rome, écoutez bien, que c'est avec elle, à cause de sa haute prééminence, que doit être d'accord toute l'Église. Je répète ce que Saint Irénée disait 100 ans avant Saint Cyprien. L'Église de Rome, bien, c'est avec elle, à cause de sa haute prééminence, que doit être d'accord toute l'Église. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a 21 églises d'accord, qui sont unies. Je vous en donne quelques noms. Les Maronites, les Melkites, des orthodoxes roumains, qu'on appelle Uniates, j'aime pas tellement le nom, disons unis à Rome. On a des Coptes catholiques, les Syro-Malabar, les Syro-Malankar, en Inde. Les Arméniens catholiques, puis etc., les Russes catholiques. Quantité de branches de l'Église orthodoxe sont catholiques, peu nombreux souvent, mais courageusement, ils préfigurent l'unité à venir. Ils veulent pas trahir l'orthodoxie, ils veulent la vivre. Au sein de cette Église, à la demande de Saint Cyprien, et de tous ces saints qui ont vécu il y a si longtemps. C'est cet accord de toute l'Église avec Saint-Pierre que Saint-Cyprien ne semble peut-être pas avoir conçu doctrinalement comme Saint-Irénée. Je vous lis quelques passages de son livre. Mais auparavant, je vais vous dire qu'il y a une apologie convaincue de l'unité chez Saint-Cyprien. Une unité qui est considérée, l'unité de l'Église catholique, tous les fidèles autour du pape, en fait autour du Christ, considérée comme le ferment. C'est le lien, c'est le signe de la véritable Église. Et tel est le fond de son livre, de son opuscule, c'est pas très long, de toutes les pages où Cyprien a abordé cette question. Le pire ennemi que le peuple chrétien doit redouter, ce n'est pas celui qui déchaîne la persécution, car contre la persécution, il suffit de s'armer de courage. C'est celui qui sournoisement, là, par des intrigues tournées dans l'ombre, prépare le schisme, les séparations. Prépare l'hérésie. On dit, ah, l'Église a tort, l'Église ne devrait pas dire ceci, l'Église a tort de dire cela, et puis on se sépare. Pourtant, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle, dit Jésus. Ah, il n'y a pas de crime plus grand, il me semble, que de semer la haine entre les fidèles, que de les séparer de leur pasteur. Au moins, celui qui apostasie, il ne perd que lui-même. Mais ceux qui créent des dissensions, eux, ils vont jusqu'à s'attacher à effacer le caractère fondamental et spécifique de l'Église qui est l'unité. Soyez un. Et tout le mouvement de l'écuménisme tend à ça, à faire que nous nous comprenions les uns les autres. J'ai souvent prié avec des anglicans, avec des membres de l'Église unie, avec des orthodoxes, etc. Et j'ai senti combien il y avait au fond une unité sous-jacente, un cri, un appel que l'on sent dans le regard de ces gens sincères. Car tous nous recherchons l'unité. Et Cyprien n'hésite pas à appeler l'unité un sacramentum, c'est-à-dire un commandement divin d'une mystérieuse efficacité. Et les mots qui reviennent sans cesse sous la plume de Cyprien, ce sont pas ceux-ci. Pax, la paix. Unanimitas, concurs. Une concorde unanime. Consensio. Un consensus. J'agirais, dirais même un consentement. Il multiplie les symboles mystiques empruntés à la Bible et qui préfigurent cette unanimité des volontés. Il parle de cette étroite cohésion des fidèles avec leur pasteur. Cessons de parler contre le pape. Quelle horreur! C'est la tunique sans couture du Christ. La colombe du Cantique des Cantiques, dit-il. L'oiseau fidèle et pacifique par excellence. C'est le pain et le vin du Saint-Sacrifice, formé l'un de quantité de grains de blé et l'autre de multiples grappes de raisins, etc. Qui font un. C'est une unité qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Voici le texte de Saint-Cyprien, qui date d'environ 250, l'an 250. Si l'on considère, si l'on approfondit les principes, point n'est besoin d'un long débat, ni de toute une argumentation. Facile est pour la foi la démonstration, car le chemin de la vérité est court. Le Seigneur dit à Pierre, « Je te le dis, moi, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne la vaincront pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi dans le ciel. » Au même Pierre, ajoute Saint-Cyprien, il dit après sa résurrection, paix mes brebis. C'est sur un seul qu'il édifie l'Église. Et il lui confie ses brebis à faire paître. Et quoiqu'il dispense à tous les apôtres un pouvoir égal, il n'a établi cependant qu'une seule chaire, un seul siège, si vous voulez, et il a organisé par l'autorité de sa parole l'origine, la modalité de l'unité. De toute façon, les autres apôtres étaient aussi ce que fut Pierre, mais la primauté est donnée à Pierre, et une église unique, une chaire unique nous est montrée. Tous sont pasteurs, mais il nous est signalé qu'il n'y a qu'un troupeau que font paître tous les apôtres en un accord unanime. Celui qui ne s'attache pas à cette unité recommandée par Paul, croit-il qu'il reste attaché à la foi? Celui qui abandonne la chair de Pierre, sur laquelle l'Église a été fondée, peut-il se flatter d'être dans l'Église? Dit Saint Cyprien. C'est sur un seul qu'il édifie l'Église. Et bien qu'après sa résurrection, il dispense à tous les apôtres pouvoir égal, il leur dise « De même que mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. Si vous remettez à quelqu'un ses péchés, ils lui seront remis. Si vous les lui retenez, ils lui seront retenus. Cependant, pour manifester l'unité, il a aménagé, par l'autorité de sa parole, l'origine de cette unité, de telle façon qu'elle commença par un seul. » Et Saint Cyprien continue en disant « De toute façon, les autres apôtres étaient aussi ce que fut Pierre. Ils bénéficiaient d'une participation égale à l'honneur et au pouvoir. Mais, le commencement a son point de départ dans l'unité. Ainsi est soulignée l'unité de l'Église du Christ. Cette unité, une, cette Église, une, l'Esprit Saint, au nom du Seigneur, la vise encore dans le Cantique des Cantiques quand il dit « Unique est ma colombe ». Ma perfection, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Oh, celui qui ne s'attache pas à cette unité de l'Église, croit-il qu'il reste attaché à la foi? Celui qui résiste et fait opposition à l'Église, est-il bien sûr d'être dans l'Église? Le bienheureux apôtre Paul n'enseigne-t-il pas la même chose? Ne met-il pas en relief le sacrement de l'unité quand il dit « Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, une seule espérance, celle de votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. » L'épiscopat doit rester un comme l'Église elle-même. Et dans sa dernière lettre, Saint Cyprien, avant de se faire trancher la tête, a écrit aux prêtres, aux diacres et à tout le peuple de Carthage, dans la Tunisie d'aujourd'hui. Il convient qu'un évêque confesse le Seigneur dans la ville où il préside à l'Église du Seigneur, et que le peuple tout entier soit glorifié par la confession publique de son chef. Confesser, ça veut dire proclamer sa foi. Vous comprenez ce mot « confesser » Et qu'au moment même de la confession, donc de la proclamation de sa foi, au moment même de la confession, prononce un évêque confesseur sous l'inspiration de Dieu, c'est la bouche même de tous qui le prononce avec lui. D'ailleurs, ce sera un coup porté à l'honneur de notre Église si glorieuse. Si moi, évêque chef d'une autre église, c'est à Utique qu'après ma confession, je reçois la sentence. Et si c'est de là que je pars martyr vers le Seigneur, car mon devoir est de confesser le Seigneur au milieu de vous, y souffrir le martyr, et de là partir vers Dieu. Il termine en disant, que le Seigneur Jésus, frère très cher, vous fasse persévérer sains et saufs en son Église et qu'il daigne vous conserver. Nous sommes un peu au désespoir aujourd'hui quand on regarde les églises d'Orient. Toute cette église de Tunisie est disparue. L'église d'Algérie. On a même assassiné des trappistes, Monseigneur Clavery, évêque de Rhin, de nos jours. Pourquoi est-ce que ça se continue, grand Dieu? Quel drame! Qui ne connaît pas des musulmans à Montréal qui sont des amis, des frères, des gens que nous aimons? Comment se fait-il qu'il se passe ces drames? Et quand je vois en Israël, dans l'ancienne Palestine, ce Palestinien, Monseigneur Michel Sabah, qui est patriarche latin de Jérusalem, qui dit que devant les menaces qui pèsent sur la présence chrétienne au Moyen-Orient, sans nécessité de s'unir, il dit « Nous appartenons à un ensemble, or cet ensemble passe par une étape de maturation qui soulève beaucoup de défis. C'est la formation de la démocratie dans ces pays-là, même chez les Israéliens. La liberté de la personne humaine, le développement des extrémismes religieux, l'extrémisme musulman ou juif. Et il ajoute, mais aussi, parfois, l'extrémisme chrétien. Les églises s'interrogent, quel est leur rôle et leur devoir? Alors, Monseigneur Sabah, le patriarche de Jérusalem, dit, nous avons quelque chose à dire, et si nous ne le disons pas, nous manquerons à notre devoir. Oui, l'Église catholique conduit donc sa propre réflexion, et au Moyen-Orient, elle entend apporter sa contribution pour le dialogue entre toutes les églises. Mais dans nos régions, les chrétiens ont tendance à se replier sur eux-mêmes ou à immigrer. Les chrétiens de Terre Sainte doivent pourtant s'affirmer chrétiens, être chrétiens authentiques dans la société dans laquelle nous vivons en Israël est un combat perpétuel, spirituel, moral et psychologique. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il ne faut pas prendre la fuite. L'Église de Jérusalem a un message particulier pour les chrétiens d'Orient. Oui, Jérusalem est la ville sainte centrale pour la présence chrétienne de tous les chrétiens du monde. Et toutes les églises d'Orient considèrent Jérusalem comme leur église. Il faut rester grand, même si l'on est peu nombreux. Ainsi parle Monseigneur Michel Sabah face aux extrémismes juifs, musulmans et même chrétiens. Parce que les églises d'Orient entendent apporter leur contribution à la construction du dialogue dans la région. Prions pour ces chrétiens d'Orient, martyrs encore aujourd'hui. Martyrs d'autre façon souvent, mais martyrs quand même. Ce sont des descendants de Saint-Cyprien.